Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Après, ben, moi qui angoissais beaucoup, et mon mari aussi, sur les injections, c'est de se dire, voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement, c'est pas si horrible que ça. Et finalement, c'est pas ce qu'on retient. Mais je pense que ça m'aurait peut-être rassuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire, non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Sais, ouais.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il y a quelques mois, Aurélie m'a contactée sur mon compte perso Instagram pour me parler de Alors c'est pour bientôt. Elle aussi expatriée aux États-Unis, elle a vécu tout son parcours de PMA en Californie et est la maman de Léna, 2 ans et demi, et d'Evan, âgée de 5 mois et demi. Rapidement, elle me propose une succession d'idées géniales pour lancer et développer le blog du podcast, que je vous encourage d'ailleurs au passage à aller visiter sur le site internet du podcast, et elle offre son aide et son énergie pour prendre à bras le corps ce projet. Et quelle énergie! Un vrai bonheur! Mais aujourd'hui, Aurélie va vous livrer son histoire. Âgée de 36 ans, elle a rencontré son amoureux à l'âge de 18 ans, et c'est il y a 5 ans qu'ils décident tous deux de faire le grand saut et de partir s'installer au cœur même de la Silicon Valley aux États-Unis. Dans cet épisode, Aurélie raconte donc son parcours d'essai naturel à la découverte du système de santé américain qui lui était jusqu'alors complètement inconnu. Les prises en charge sont aussi très différentes. Aurélie nous explique les complémentaires santé qu'elle a trouvés pour s'assurer de pouvoir suivre ses traitements sans se ruiner financièrement. Puis elle nous entraîne avec elle 5 ans en arrière à la découverte du monde merveilleux de la PMA locale. Saviez-vous qu'on leur propose des formations spéciales FIV avant même de se lancer ? Aurélie nous parle aussi d'un test intéressant. Connaissiez-vous le test de l'analyse de la réceptivité de l'endomètre, ou ERA ? Celui-ci permet d'ajuster et de personnaliser le traitement pour préparer l'endomètre au transfert en FIV. Puis nous discutons des screenings génétiques préimplantatoires proposés par son médecin, de ses 2 FIV, 3 transferts et de ses 2 bébés à la clé. Un magnifique épisode, dense et passionnant. Alors c'est parti, je vous amène donc en Californie à la rencontre d'Aurélie. Bonne écoute ! Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ?
Bonjour Anne-Fleur, alors ça va très bien. Je t'appelle, moi je suis aux États-Unis, en Californie du Nord plus précisément.
Ouais, donc vu de la France, on est presque voisines.
Exactement.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais partie de l'équipe justement du podcast d'ailleurs. Et tu veux nous expliquer en deux mots sur quoi tu travailles ?
Alors, on va essayer de lancer des articles sur le blog.
Et
tu... Compléter le podcast.
Exactement. Bon, on en dira plus. Je pense qu'à la, au moment de la sortie de ton épisode, on pourra en dire un petit peu plus. On aura avancé sur le projet. Donc, ça devrait être chouette. Bien. Dis-moi, alors, t'es aux États-Unis depuis combien de temps?
5 ans, à peu près.
D'accord. Vous êtes venu pour le boulot? C'était un rêve? C'était quoi? Vous les deux? Alors,
pour moi, pas du tout. Pour mon mari, oui, parce qu'il travaille dans l'informatique et c'est vrai que beaucoup de choses se passent ici. Ça faisait un petit moment qu'il voulait venir. Moi, j'étais pas hyper chaude. Et puis à un moment, ça s'est fait. Voilà, l'opportunité s'est présentée et donc on est venu ici.
Et il a réussi à te convaincre. Bec. Sans indiscrétion, t'as quel âge, Aurélie ?
Alors, j'ai 36 ans.
D'accord, ok. Et tu viens de quel coin en France ?
Alors, je viens des Sables-d'Olonne, c'est en Vendée,
oh,
sur la côte ouest.
Sympa, ça. Donc, toi et Jérémy, vous vous êtes rencontrés comment et à quel moment de votre vie de couple, je dirais, est venue l'envie d'avoir un bébé ?
Alors, on s'est rencontrés en 2002, donc on avait 18 ans. C'était en fait l'ami de mes cousins jumeaux.
Ah, excellent, ok.
Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que tous les deux, on a assez rapidement parlé d'avoir des enfants, mais on n'était pas spécialement pressés. Forcément, à l'époque, on était jeunes. Après, on est partis pour le travail tous les deux à Paris. Et puis, bah, la vie parisienne, habiter dans un petit appartement avec des gros horaires. J'avoue qu'on avait du mal à se projeter, en fait.
Ouais, j'imagine.
Donc, on parlait toujours d'avoir des enfants, mais on se donnait pas de date. Et puis, le fait d'arriver ici aux États-Unis, ça a été vraiment, on s'est dit, c'est le bon moment. On était même sûr que ça allait marcher tout de suite. Du coup, j'avais dit, je vais pas chercher un travail, c'est pas la peine, parce que le temps d'avoir le visa pour travailler, enfin, si ça marche tout de suite, voilà, c'est pas la peine.
Ouais, t'avais envie de pouvoir rester auprès de tes enfants au début, quoi, c'est ce que tu veux dire.
Oui, et puis je me voyais pas arrêter de travailler au bout de quelques mois de.
Ouais, bien sûr. Ok. Donc du coup, donc si mes calculs sont bons, du coup il y a 5 ans, c'est ça? Vous
voilà.
Vous décidez de vous lancer, super. Du coup, je veux dire, vous lancez de manière naturelle. Tu vas pas voir un gynéco pour faire un petit bilan avant tout ça.
Alors, quand on est arrivé ici, j'ai pas été voir un médecin tout de suite. Enfin, on n'a pas du tout imaginé le moindre problème. On était en bonne santé tous les deux, donc on s'est dit, on y va. Enfin, j'ai eu des cycles hyper réguliers. Donc, voilà, assez confiante que tout se passe bien. Mm-hmm. Et puis, quand le premier cycle, ça marche pas. Comme on était vraiment tous les deux hyper prêts à ce moment-là, on s'est dit, je vais faire les tests d'ovulation.
Ah, dès le premier cycle qui n'avait pas marché, tu as pris un peu les choses en main déjà.
Voilà.
Ouais. Ok.
C'est un peu mon caractère.
C'est bien.
Mon mari aussi était tout à fait d'accord pour qu'on sache tout de suite. Voilà.
Vous en sachiez plus, quoi. Ouais, bien sûr.
Exactement. Donc, on démarre les tests d'ovulation. Et là, sans surprise, je suis hyper régulière.
Ok.
Voilà, les cycles réguliers, l'ovulation toujours bien détectée, toujours au même moment. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, on se dit, c'est quand même bizarre.
Ah, tu penses tout de suite que c'est bizarre? Parce que finalement, au bout de quelques mois, c'est la trentaine, c'est pas hors du commun, quoi, en tout cas, dans les histoires qu'on entend.
Non, tout à fait, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'étais un peu influencée. Dans notre famille, on n'avait ni l'un ni l'autre des personnes qui nous avaient parlé d'avoir eu des soucis. Moi, ma mère m'avait toujours dit d'ailleurs que... quand elle a voulu tomber enceinte, le médecin lui avait un peu rigolé en disant « Non, mais ça va prendre quelques mois. » Et elle était tombée enceinte 2 mois tout de suite. Donc, voilà, dans ma tête, ça allait marcher rapidement.
Ouais. Donc, il n'y avait pas de raison que ça prenne plusieurs mois pour vous, quoi.
Voilà. Et puis, c'est vrai de voir ces cycles hyper réguliers qui se passent bien.
Ça t'a mis la puce à l'oreille.
Voilà. Donc, on s'est dit, comme on n'avait pas de médecin, on était arrivé depuis pas très longtemps aux États-Unis. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. Je savais bien que normalement, c'était au bout d'un an que je faisais des tests, enfin, qu'avant, il se passait rien. Hein. Mais elle a été super à l'écoute. Tout de suite, elle m'a dit, je peux faire quelques tests pour vous. Elle m'avait même proposé de faire un bilan hormonal direct.
D'accord.
Donc là, je me suis dit, on va quand même attendre. Ça me paraît un peu prématuré. Donc voilà.
Question bête, mais du coup, tu penses que ça te paraît prématuré, mais du coup, tu y allais pourquoi, du coup, si tu pensais que c'était prématuré de faire des tests, tu voulais...
Parce que je savais pas si c'était long après, comme je connaissais pas le système de santé américain.
Ouais.
J'avais aucune idée de si j'allais avoir un rendez-vous rapidement. De toute façon, il me fallait un médecin généraliste parce que, dans notre assurance santé ici, on a un peu l'obligation de faire un rendez-vous par an pour vérifier qu'on est en bonne santé. Donc voilà, ça, on s'est dit, c'est le bon moment de mettre un pied déjà dans le système de santé.
Bien sûr, d'accord. Et question bête, tu parlais bien anglais à l'époque. Enfin, moi j'ai toujours trouvé, vivant aussi aux États-Unis, assez impressionnant. Je trouve les premiers rendez-vous, surtout les rendez-vous, je dirais à forts enjeux, quoi. Tu vois, donc les rendez-vous sur la fertilité, des trucs qui tiennent vraiment à cœur. Alors, ça me faisait peur, moi. Pourtant, je parlais anglais.
Ouais, moi, j'ai pas trop eu de soucis parce que j'ai fait une partie de mes études en anglais. Donc la langue, c'était pas un problème. Et en plus, je travaillais en laboratoire pharmaceutique, donc c'est vrai que le vocabulaire, on va dire, médical ne m'effrayait pas.
Super. Cette médecin, du coup, donc elle propose des tests. Tu dis, écoute, non, c'est trop tôt. Pour l'instant, on n'en est pas encore là.
J'ai dit, OK, on a fait, je crois, le test pour la thyroïde et peut-être un ou deux autres. Je me souviens plus ce que c'était. Mais voilà, vraiment le bilan hormonal, j'ai dit, on va attendre d'avoir un an d'essai. Pareil, elle m'avait dit, envoyez-moi votre mari tout de suite. Il n'y a pas de problème. On a attendu quand même.
D'accord.
Donc, au bout d'un an, je sais plus si c'est moi ou c'est mon mari qui retourne d'abord. Donc, tout de suite, elle lui a dit, on fait un spermogramme. Donc, voilà, il en fait un premier. Donc là, c'est un peu spécial. Hein. Aux États-Unis, peut-être qu'en France, il y a des endroits où c'est pareil, mais on reçoit un mail pour nous dire qu'on a des résultats d'analyse.
Oui, c'est vrai.
C'est pas un appel de la médecin. Bon, en général, si les médecins appellent, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de grave.
En tout cas, dont ils veulent discuter, quoi, ouais.
Voilà. Et donc, on reçoit le mail et puis on regarde les résultats. Nous, forcément, on s'est pas trop renseigné, donc on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais on voit tout de suite qu'il y a un chiffre qui est en rouge. Donc, pour les spermatozoïdes, si tu dis pas de bêtises, ils vérifient le volume, donc la quantité, la forme et la mobilité. Et lui, le chiffre rouge, c'était sur la forme, où c'était marqué morphologie, moins de 2% des spermatozoïdes ont une forme normale. Là, on se dit, oula, ça paraît pas terrible. Donc, on regarde un petit peu sur Internet. Effectivement, ça nous paraît pas très encourageant. Donc, il refait le point avec la médecin qui lui dit, vous inquiétez pas. On valide toujours par un deuxième spermogramme. Mm-hmm. Parce qu'il peut y avoir des soucis au niveau de l'analyse. Enfin, voilà. On vérifie. Il fait le deuxième et puis, là, c'est pareil.
Mince.
Donc, mince. moi, je fais les tests de mon côté. Donc, le fameux bilan hormonal. Il y a rien de catastrophique. Il y a des chiffres qui sont pas géniaux, mais pas de... a priori, pas de gros soucis identifiés en tout cas à ce moment-là.
Vous n'avez pas encore du coup rencontré le médecin suite à ces résultats, c'est ça ?
Ah, je me souviens plus. Ben, entre le premier et le deuxième spermogramme, je me souviens plus s'il l'a revu.
D'accord.
Ou si ça a été juste par téléphone ou par mail.
D'accord. Et comment est-ce que vous avez vécu cette première découverte ? Vous n'en avez pas encore pris forcément la mesure, peut-être, avant de rencontrer le médecin ?
Mon mari était un peu perturbé quand même, parce que ça lui paraissait vraiment les chiffres très mauvais, quoi.
Mm-hmm.
Mais je sais pas si on se rendait vraiment compte, ou alors peut-être que dans notre tête, le fait d'avoir attendu déjà un an sans qu'il se passe rien, on était déjà passé je pense.
Ouais, d'accord.
En tout cas, ça a pas été un. Quand parfois on entend les couples qui parlent de leur parcours où ils ont, voilà, comme si c'était une. Ils avaient découvert quelque chose un jour précis et s'en souviennent vraiment de ce moment-là. Nous, c'est pas le cas. Je pense que graduellement, en fait, c'est monté dans notre esprit que ça allait, qu'on allait passer par là.
Ouais. Vous auriez besoin d'un coup de main, quoi. D'accord.
Il n'y a pas eu de révélation, entre guillemets.
Tac. Donc, du coup, toi, donc, tes chiffres, pas tout, tout n'est pas ouf, mais c'est pas mal. C'est ça que j'en comprends.
Voilà. A priori, pas catastrophique. On n'a pas non plus beaucoup d'explications. Ça reste la médecin généraliste.
Ouais.
Et à ce moment-là, elle nous dit, là, il faut prendre rendez-vous avec une gynécologue.
D'accord. Une gynécologue d'un centre de fertilité ou une gynécologue?
Non, normal. Alors là, nous, en fait, on avait fait le choix. Bon, c'est le cas dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Donc, c'est notre assurance. Donc, on a des médecins qu'on peut consulter qui sont liés à notre assurance. Et en fait, dans notre ville, il y a un énorme centre de soins. Ça a la taille d'un hôpital. C'est monstrueux. Mais en fait, c'est pas un hôpital. Ce sont que des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et donc, on a fait le choix de se faire suivre là. Donc, à chaque fois, ils vont nous orienter vers d'autres médecins de ce centre.
Ah, c'est cool. Du coup, les dossiers suivent et c'est quand même un peu plus simple, j'imagine. Ouais, j'ai fait pareil, moi aussi.
Ils ont toutes les analyses, ils ont tout. Et donc là, ils nous orientent vers une médecin, une gynécologue, mais classique.
D'accord, ok. Donc, rencontre avec la gynéco. Ils vous prennent assez rapidement, d'ailleurs, parce qu'on parle souvent en France de l'attente entre les rendez-vous, là.
Non, ici, aucun souci. On a toujours eu des rendez-vous rapides. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était genre le mois d'après, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette gynéco ?
Là, j'y vais seule. Elle voit le dossier. Donc, je crois qu'elle me fait un frottis, un examen. Mais là, elle me dit, au vu de votre dossier, de toute façon, faut aller tout de suite en centre de fertilité.
Bon, ok. Donc, on n'a pas trop avancé, quoi.
Bon. Voilà, rendez-vous.
On est avancé.
Au moins, voilà, elle nous le dit, c'est sûr. Voilà,
c'est acté, quoi.
Ouais, voilà.
D'accord. Et le centre de fertilité, il y en a un dans ce centre médical où tu es ?
Justement. Donc là, elle me donne les papiers. Il y en a un. Donc, nous, très bien. Ok, on va prendre contact. Mais avant, on se renseigne un peu. On se dit, là, centre de fertilité, on est aux États-Unis. Assurance. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ça, par rapport à la France, quand on doit faire un soin, avant toute chose, on prend contact avec son assurance pour savoir ce qui va être pris en charge ou pas.
Ouais, il y a pas de couverture minimale ici. Enfin, pas comme en France sur la PMA.
Alors, du coup, je m'étais renseignée. En fait, alors, si il y a une couverture, en fait, donc, sur les 50 États, il y a 16 États qui ont décidé d'imposer, entre guillemets, aux mutuelles une couverture. Il y a un petit piège. Sur la couverture, ça veut dire soit proposer la couverture, enfin, entre guillemets, l'inclure dans le prix qu'on paye pour la couverture de santé, soit c'est juste proposer, en fait, une couverture. Donc, ça veut dire payer en plus.
Subtilité importante.
Voilà, c'est pas rien. Et il se trouve que la Californie, c'est le cas. En fait, les assurances sont obligées de proposer une couverture supplémentaire, mais donc, c'est pas pris en charge.
Okay.
Donc, effectivement, pour des gens qui ont une couverture santé de base ou pas de couverture, c'est à zéro prise en charge.
Ouais, donc c'est carrément inaccessible quand tu vois les coûts.
Oui, j'avais regardé. D'accord. En moyenne, je crois que c'est autour de 15 000 $ un cycle de fécondation in vitro sans les médicaments. Ouais. Et les médicaments, c'est autour de 5 à 7 000 $.
Oh la vache! Oh la vache, d'accord.
Voilà.
C'est complètement dingue. Mais aux États-Unis, beaucoup de ce qu'ils appellent les bénéfices santé, donc les je sais pas, l'équivalent un peu des mutuelles et plein de choses comme ça, sont aussi offertes par les employeurs.
Voilà,
c'est souvent d'ailleurs une marque de différenciation dans l'attractivité des employeurs. Et ça a été le cas pour vous ?
On a eu énormément de chance.
Ah.
En fait, par rapport à la France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie aux États-Unis, elle a à la fois le rôle de l'assurance santé comme on a en France et de la mutuelle. En fait, c'est les deux. Et donc nous, là, on appelle notre assurance justement qui est proposée par l'employeur de mon mari. Et là, on a une bonne surprise. En fait, il nous propose deux solutions. Soit en fait c'est un montant ils appellent ça un lifetime, donc ça veut dire sur toute notre vie en gros, qui est de 20 000 $ si je dis pas de bêtises. Et là, on a le droit de faire donc tous les soins qu'on veut dans la limite de 20 000 dollars. Après, c'est de notre poche.
Ah, mais donc, vu les prix que tu m'as dit, ça veut dire que ça compte une seule FIV? Ou est-ce qu'ils ont des prix négociés, eux, avec
providers? Non, pas négociés. Il faut savoir que nous, on habite en Californie. Les prix que je t'ai donnés, c'est les prix moyens. Nous, on est un peu au-dessus.
Ouais,
donc,
d'accord.
En gros, ça correspond à un cycle de FIV. Donc, bon, ce qui est déjà pas trop mal. Mais là, ils nous disent, on propose depuis, ça faisait juste un an qu'ils le proposaient, une assurance fertilité spéciale. C'est quelque chose qui venait de se créer. C'est une assurance complémentaire, mais pour le coup, qui est complètement pris en charge par notre assurance, donc par l'employeur de mon mari, et qui est dédié vraiment qu'à ça. Et ils ont un système où ils appellent ça des smart cycles, donc c'est des cycles. On a droit à trois cycles complètement pris en charge, et en fait, ils définissent des quotas. Alors, si je dis pas de bêtises, par exemple, une ponction ovarienne, ça compte un demi-cycle, un transfert d'embryon frais, un demi-cycle, un transfert d'embryon congelé, un sixième de cycle. Enfin voilà. Donc là, ça veut dire que tu as le droit...
Ah oui, d'accord, c'est une vraie équation, le truc.
C'est ça, c'est des chiffres. Mais bon, en gros, ça veut dire que tu as minimum quand même trois cycles de FIV pris en charge. C'est génial, sachant qu'en plus, comme c'est une assurance spéciale infertilité, ils se rendent compte que plus tu fais de tests et plus tu as de chances que ça réussisse, donc ils prennent en charge beaucoup de tests, dont les tests génétiques.
Ah, super, donc, ouais. Ok.
Très, très bonne surprise.
Donc, bonne surprise pour vous,
ouais,
carrément.
Oui, parce que ça nous fait un petit peu peur.
Super. Tu m'étonnes, c'est effrayant. Et alors, du coup, en fait, tu fais toutes ces recherches-là avant même d'aller dans le centre de fertilité, histoire de pouvoir réagir finalement à ce qu'ils vont te proposer.
Quoi, et du coup, là, à ce moment-là, on regarde quels sont les centres pris en charge, et il se trouve que le centre dans lequel on dépendait par rapport à nos médecins n'en fait pas partie. Et en fait, grâce du coup quelque part à l'assurance, on se rend compte qu'il y a des stats qui existent, qui sont accessibles à tout le monde sur les chiffres, les réussites sur les FIV pour chaque centre. Peut-être que c'est la même chose en France, je sais pas, mais en tout cas, c'est le cas ici. Et c'est vrai que ça a été quelque part une chance, parce que si on l'avait pas su, je pense qu'on serait allé directement chez le centre qu'on nous recommandait sans chercher, en fait, alors que leurs stats étaient pas géniales.
Bien sûr. D'accord. Et les stats, en fait, c'est le taux de réussite, c'est quelque chose d'assez,
en fait, t'as les chiffres par âge de la future maman, par combien de nombre de cycles il a fallu pour que la personne tombe enceinte ou pas. Enfin, il y a beaucoup de détails dans les chiffres. Est-ce que ça a été un don d'ovocytes, un don de sperme? Enfin, vraiment, les stats sont hyper détaillés.
Hyper poussés, quoi. Et c'est pas que, enfin, j'imagine qu'on vous donne pas que les stats par rapport aux tests positifs, mais aussi rapport aux naissances.
Voilà. Et après, voilà, tu vois aussi, les naissances, les bébés prématurés, par exemple, les fausses couches. Enfin, oui, il y a tout ça d'indiquer. Donc bon, ça.
Donc du coup, vous avez utilisé ça pour trouver
un
autre
quand même proche de chez nous et qu'il y ait des bonnes statistiques.
T'as essayé de trouver aussi des recommandations de personnes.
Ah, oui, alors moi je connaissais personne qui était passé par là dans mon entourage à ce moment-là, mais j'avais regardé sur des sites internet. Il y avait un forum des parents à Berkeley, donc il y a une ville pas à côté mais pas trop loin. J'avais pu voir quelques recommandations. Du coup, j'ai commencé à creuser un peu plus. Parce que je réalisais pas encore à ce moment-là qu'il y avait vraiment beaucoup d'écarts en fonction des centres. Okay. Donc là, justement, le centre que j'avais repéré, il avait plusieurs bureaux, donc à différents endroits où ils reçoivent les parents, ils font le suivi au quotidien, on va dire, pour la FIV. Et par contre, ils ont un centre qui est plus loin pour faire tout ce qui est ponction et les opérations. Mais bon, ça, c'est moins grave parce qu'on y va moins souvent. Donc si c'est plus loin, c'était pas trop grave.
Bon, super, d'accord. Donc du coup, vous prenez rendez-vous. Est-ce que là aussi, c'est facile de prendre son premier rendez-vous?
Alors oui, en fait, au final, assez facile. Pareil, je m'attendais à avoir des mois et des mois d'attente. Je crois qu'on était au début de l'été. Et en fait, on a un rendez-vous pour août, donc vraiment rapide. Donc voilà, donc on a le rendez-vous. On a un dossier à remplir assez classique. Ici, tout est informatisé. Donc en gros, on doit dire à notre centre de soins habituel d'envoyer toutes les infos au centre de fertilité. Donc voilà, la médecin récupère tout avant, et puis on arrive au rendez-vous, elle avait déjà toutes les données. Là, elle étudie le dossier, et puis sans grande surprise, elle nous dit il va falloir passer directement par une FIV, donc pas d'insémination avant. Dans notre cas, ça n'avait pas d'intérêt, et c'est une FIV qui s'appelle ICSI, où ils vont justement quand il y a des problèmes au niveau des spermatozoïdes, sélectionner directement le bon spermatozoïde pour l'injecter dans l'ovocyte. Alors qu'une FIV classique, dans une FIV classique, on met les spermatozoïdes au contact des ovocytes sans les injecter directement à l'intérieur.
Donc a priori, un taux de réussite plus élevé.
Voilà. Oui.
sur papier. Bah
voilà, parce que du coup, ils sont sûrs de sélectionner un spermatozoïde dans le cas de mon mari qui a une bonne forme.
Et ce premier rendez-vous, d'ailleurs, il se fait avec un gynéco. Alors, c'est directement ou c'est par un biologiste ou...
Non, c'est la médecin qui nous suit. C'est une endocrinologue de la spécialisée dans la reproduction, en gros.
Ok, donc les hormones.
Voilà, et c'est une gynéco. Enfin, je pense que voilà, c'est une gynécologue, mais spécialisée en fertilité.
Vous vous y attendiez à cette annonce? Vous aviez fait des recherches entre temps sur la
fille. Renseignée. Et j'avais bien compris quand on est dans le cas de comme mon mari, il y a pas vraiment le choix. Donc du coup, ça m'a aussi rassurée de voir qu'elle essayait pas de nous faire passer par des inséminations, par autre chose, mais qu'on allait entre guillemets droit au but.
Donc alors, qu'est-ce qu'on vous propose du coup comme plan d'attaque? Comment est-ce que ça va se passer tout ça?
Déjà, enfin la chance qu'on a eue, je trouve, c'est que c'était une médecin qui était vraiment hyper positive et hyper dynamique. On a l'impression tout de suite qu'on est entre de bonnes mains et que voilà, elle va.
Ouais. Tu te projettes, voilà, quoi, tu fais confiance.
Qu'elle va nous aider, qu'elle va bien suivre notre dossier. Enfin voilà. Donc déjà, on s'est senti très bien entouré dès ce premier rendez-vous. Donc là, elle nous explique le fonctionnement. Elle nous dit que dans notre cas, avec notre couverture, on a le droit aussi à des tests génétiques. Alors, ils appellent ça un dépistage préconceptionnel.
Ça consiste en quoi, alors?
En gros, c'est vérifier les maladies génétiques qui sont récessives. Donc, c'est-à-dire, c'est les maladies où il faut que les deux parents soient porteurs pour que le bébé soit malade.
Et ils le font sur l'embryon ou ils le font chez vous?
Nous, c'est une prise de sang, en fait, classique. Et ils sont capables de détecter environ 200 maladies génétiques qu'ils vont chercher. Par exemple, la mucoviscidose, c'est le type de maladie qui fonctionne comme ça. Mm. Ou si on n'a qu'un gène, on est porteur sain. Donc on sait pas qu'on est malade. Vrai. Enfin, on n'est pas malade justement. On ne sait pas qu'on est porteur, mais voilà.
Mais si tant est que vous l'ayez tous les deux
sont atteints, ben là pour le coup, l'enfant sera malade.
Ouais, moi j'avais eu ça. Je crois que la deuxième grosse autre maladie, je crois que c'était une leucodystrophie aussi. Ce qui m'avait surprise, moi justement, dans les tests qu'on m'avait dit, en fait, c'est parce que vous êtes européenne et que il y a une prévalence beaucoup plus importante de ces maladies en Europe. Et en gros, du coup, moi ça m'avait même choquée parce qu'il m'avait fait la prise de sang que sur moi. Il m'avait dit, OK, si vous n'êtes pas porteuse, il n'y a pas besoin d'aller piquer votre mari.
Je dis, oui. Quand ils cherchent une maladie spécifique, souvent c'est le cas. Exactement. Ouais. Alors que là, ils vérifiaient, là, c'est la société qui fait ce test-là. Ouais, c'est 200 maladies. Enfin, ils font tout un.
Une batterie de tests, quoi.
Quitte à aller en FIV, autant mettre toutes les chances de notre côté.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, mon mari, nickel, aucune maladie génétique. Moi, ils en trouvent une, qui est très rare. Donc là, il y a une généticienne qui m'appelle pour m'expliquer, qui me dit, vous inquiétez pas. En gros, c'est plutôt votre mari, elle me dit, qui est une exception, parce que si on faisait ce test-là à tout le monde, 70% des gens auraient une maladie génétique qui serait détectée lors de cette prise de sang. En fait, on est tous porteurs quelque part de maladie, mais on le sait pas.
Bien
donc
sûr.
Voilà, lui n'est pas porteur, donc aucun risque pour.
Donc, ça prend combien de temps à peu près là, tous ces tests avant de vous lancer?
C'est rapide. La médecin a dû nous prescrire d'autres prises de sang, mais c'est voilà, la prise de sang. En plus, j'avais jamais vu ça. C'était une personne qui venait à domicile pour nous faire la prise de sang.
Ah, c'est trop bien.
Qu'ils envoient après, c'est par courrier, et puis après on reçoit le résultat. Je sais pas, peut-être 2 semaines plus tard. C'était rapide. Hein.
D'accord. Ouais, la génétique, c'est un peu
plus. Enfin, c'était assez rapide quand même.
Trop bien. Et donc du coup, tous les signaux sont au vert pour que vous lanciez sur votre.
Il va y avoir des délais de fou. Okay. Mais pas du tout, tu vois, parce que là on est en août et en gros elle nous dit prochain cycle, en gros, en octobre, on démarre.
C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, c'était pareil aussi. Même, je trouvais que ça allait presque trop vite.
Après, elle a bien dit, hein, si vous êtes prêts. Hein. Elle nous forçait pas la main. Mais voilà. Ça pouvait aller très, très vite.
Alors comment ça se passe?
J'ai trouvé que c'était bien et j'ai l'impression que c'est pas partout pareil. On a une formation pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une fécondation in vitro, comment ça se passe, à quoi s'attendre. Donc là, c'est encore une fois très américain. On se connecte avec des identifiants, un site. On a des chapitres. Mm-hmm. À la fin de chaque chapitre, on a des questions pour vérifier qu'on voilà
un petit quiz. Une interro.
Donc voilà, on a une formation sur la fécondation in vitro. Mais bon, en final, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée.
Ça vous a aidé, c'était bien fait.
Ouais, c'est super bien fait. Et en fait, à part en cours de SVT au collège ou au lycée, enfin là, je me souviens pas avoir eu beaucoup d'infos sur la reproduction humaine au final.
C'est vrai.
Donc,
c'est vrai. Ouais, t'as tout à fait raison.
Donc non, dans ce sens, c'est intéressant et au final, tu vois, tu te dis que c'est dommage que tout le monde passe pas par là parce que il y aurait beaucoup d'incompréhensions qui pourraient être levées si on passait tous par là, je pense.
Ah, c'est clair. C'est une super idée.
Donc voilà, on a ça. Pareil pour les injections. On a une formation, donc là c'est en groupe, on se retrouve à plusieurs couples à arriver, tous un peu stressés de devoir faire s'entraîner à faire les injections. Donc à ce moment-là, moi j'ai très peur des piqûres. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu peur de ça. Je me souviens quand ma mère m'emmenait avec mon frère pour qu'on se fasse nos vaccins en même temps, j'étais incapable de regarder mon frère se faire vacciner. Enfin, pour moi, c'était juste insupportable.
Ah ouais, la torture, quoi. Voilà. D'accord.
Mon mari, encore pire, quand on lui fait une prise de sang, il doit être allongé pour pas tomber dans les pommes. Donc, ça partait pauvre, bien.
Hein. Ouais, tu m'étonnes.
Donc, à ce moment-là, c'était pour moi, c'était une évidence. C'était moi qui allait me faire les injections. Donc, on va à la formation. Et puis là, ben, nous, en fait, on s'entraîne avec, ils ont un espèce de morceau de caoutchouc qui ressemble à une consistance un peu comme la peau. Et, voilà, on s'entraîne à préparer les traitements dans les seringues et puis à faire les injections. Et là, mon mari, à un moment, me dit, non, mais laisse-moi faire quand même. Je veux voir si j'y arrive. Là, bon, d'accord. J'y crois pas du tout. Mais il me dit, non, mais c'est bon, on va essayer. C'est moi qui vais le faire. Et encore une fois, je trouve que c'est très utile parce que, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir peur. Enfin, beaucoup, quand on se lance, ont peur de faire les injections. Et du coup, d'avoir cette formation en vrai avec une infirmière et d'autres couples où on peut aussi un peu dédramatiser les choses, c'était utile.
C'est clair. Et puis, c'est vrai que peut-être que si tu as envie d'essayer, tu n'oses pas forcément essayer, j'imagine, sur ton conjoint ou ta conjointe, quoi. Donc, le fait de pouvoir essayer sur un petit bout, c'est vrai que c'est pas con. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas réussi à la toucher la figure, mais ouais, d'accord. OK.
Écoute, je pense que si nous on a réussi, beaucoup de gens peuvent le faire parce qu'on partait de loin. Hein. Donc là, oui, si après l'étape d'après, ce qui est assez particulier, encore une fois aux États-Unis, je pense par rapport en France, c'est donc l'ordonnance avec le traitement est envoyée à une pharmacie. Comme ce sont des traitements injectables, donc pas des médicaments classiques, c'est pas envoyé à notre pharmacie habituelle, mais à une pharmacie spécialisée en infertilité. Donc je rappelle, nous on habite en Californie et ils l'envoient à cette fameuse pharmacie qui est basée sur le côte est.
Ah ouais.
Voilà, on se dit c'est dommage, il y a pas
de problème. Moi c'était genre à 10 km de chez moi. Oh, la vache, donc ils envoient des trucs en plus, c'est
sachant
des traitements qui doivent rester sur la glace, des choses comme ça en plus.
Des traitements ou si t'as besoin pour le lendemain parce que le traitement est changé, il faut que ça arrive.
Bah oui.
Donc je trouve que c'est assez stressant et c'est
un peu risqué. Ouais.
Enfin, donc voilà, donc on faut appeler, tout se passe par téléphone, appeler la pharmacie qui prépare le traitement, qui nous envoie ça justement par transporteur en express pendant la nuit pour le lendemain matin, que je découvre encore une fois ce système-là, sachant que j'ai quand même travaillé dans l'industrie pharmaceutique, mais en France, donc j'arrive malgré tout à être étonnée de ce que je découvre.
Oui, bien sûr.
Et ouais, donc.
Livraison à domicile.
Livraison à domicile, nickel, on reçoit ce premier gros carton. Là, j'avoue, jusqu'à présent, ça allait plutôt bien. Quand j'ai ouvert ce premier carton, j'ai vu toutes les seringues. Alors, ça a été un petit peu plus dur.
Tu réalises ce dans quoi tu t'embarques.
Exactement.
En fait.
Là, je crois que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Là, je commençais à me dire, waouh.
Ouais, c'est impressionnant. Enfin, il y avait combien de, enfin, c'était une idée, mais tu avais tout pour un cycle ou?
C'était des poches de seringues, quoi. Donc, comme les seringues étaient différentes en fonction des traitements, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un énorme carton rempli de seringues. C'est l'image que j'en garde. Ouais. Mais bon, il y avait beaucoup plus de seringues que nécessaire, hein, mais bon.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
D'accord. Donc là, effectivement, tu te rends compte encore plus de ce qui va vous arriver. Et donc vous commencez le cycle assez rapidement après, comme tu disais que tu avais des cycles hyper réguliers.
Donc voilà, dès que j'ai eu mes règles, j'appelle le centre et puis tout de suite ils envoient ils nous font le programme en fait sur le calendrier des injections, un planning provisoire de d'échographie, de prise de sang et une date. Vraiment provisoire de ponction, puisque bien sûr après ça varie en fonction de l'évolution de comment ça se passe, est-ce que les follicules grossissent ou pas.
Et alors justement, comment ça se passe? Alors du coup vous vous lancez, comment se passent les injections et les contrôles du coup? Est-ce que tu réagis bien à cette stimulation?
Tout se passe bien au final, mon mari arrive à me faire les injections, pas de problème. J'étais hyper étonnée et c'est vrai que c'était quand même, enfin j'avoue que j'ai apprécié qu'il puisse le faire parce que ça me permettait moi de me détendre pendant ce temps et de pas regarder, de penser à autre chose et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus facile comme ça, donc je suis vraiment contente qu'il ait réussi.
Hey, comme quoi, cette formation, c'est dingue, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est super bonne idée.
On a parlé avec des amis qui ont été, même aux États-Unis, qui sont passés par là, elles n'ont pas eu non plus. Donc a priori, c'est pas fréquent.
Ouais,
mais
c'est vraiment, standard,
si c'est possible, au moins de demander à son infirmière si c'est possible qu'elle le fasse, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, donc ça démarre,
bien sûr.
Réagis bien. J'avais quand même assez peur parce qu'on m'avait beaucoup parlé d'hyperstimulation. Surtout qu'a priori, j'étais jeune et il n'y avait pas forcément de problème détecté de mon côté. Donc, j'étais entre guillemets à risque. Bon, c'était bien sûr pas très confortable. J'ai eu le ventre qui a beaucoup gonflé. J'ai eu des bleus. Mais c'était,
je m'en étais fait toute une histoire et finalement c'était plus assez bien passé, on va dire.
D'accord. Ok, bon, super. Et donc, arrive le moment où on te dit que tu as suffisamment d'ovocytes et qu'ils ont suffisamment
Il y a les prises de sang et pour vérifier les hormones et les échographies à peu près tous les deux jours pour adapter le traitement si besoin. Et puis, quand arrive le bon moment, on a des injections pour déclencher l'ovulation et puis il prévoit en fait la ponction ovarienne. Donc arrive la ponction, okay. Pareil, tout c'est. Enfin, j'étais un petit peu nerveuse quand même, hein, mais pas de souci. C'était pas mon médecin, parce qu'en fait c'est un centre où ils sont plusieurs médecins. Ils sont de garde du coup au centre où il y a où ils font les opérations. Donc c'était un homme et moi c'est vrai que j'avais toujours fait en sorte d'avoir des gynécologues femmes. J'avais toujours eu un peu, ça me gênait d'avoir un homme. Et du coup, ça, grâce à la PMA, j'ai appris que finalement, avoir un médecin homme, il n'y avait pas de souci.
c'est bien, ça t'a pu te réconcilier avec ça, d'accord. Tu l'as fait d'ailleurs, ta ponction sous anesthésie générale ou anesthésie locale? Générale.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne savais même pas que ça existait de le faire pas sous anesthésie générale.
Bon, alors la ponction se passe bien, du coup?
Ouais, la ponction se passe bien. Quand je me réveille, donc le médecin après vient faire le point, il me dit qu'il y a eu 15 ovocytes de... Donc, ce qui était pas mal, puisque moi, jusqu'à présent, il me parlait toujours d'une dizaine grand max. Bon, après, il me dit tout de suite, attention, ils sont peut-être pas tous matures. On vous rappellera, je crois qu'il rappelle après, c'était le matin, il rappelle en fin de journée pour dire combien de vos sites ont été matures et combien ils ont réussi à fertiliser. Donc là, sur les 15, il y en a que 8 de matures. Donc bon, un peu déçu, mais bon, ça correspondait un peu plus à ce qu'il nous avait dit jusqu'à présent. Par contre, les 8 ont fertilisé. Donc ça, c'est super.
Surtout, ah ouais, 100%, quoi.
C'est un problème au niveau des spermatozoïdes. On s'attendait pas à ce qu'il y en ait, que 100% fertilise.
Bien sûr.
Donc, voilà. Bonne surprise. Et puis après, ils appellent, en fait, quasiment tous les jours pour dire où ça en est. Parce qu'en fait, nous, ils allaient jusqu'au sixième jour même. Où après, ils congelaient tout puisqu'on avait prévu de faire un test génétique. Et ça, pour le faire, il faut forcément que les embryons soient congelés parce qu'il faut, une dizaine de jours pour avoir les résultats du test génétique, donc pour savoir si les embryons sont bons ou pas. Donc les jours passent, on nous appelle, c'est toujours hyper stressant parce qu'on voit le numéro qui s'affiche, de se dire voilà combien est-ce qu'il va en rester. Mais bon, ça se passe pas trop mal puisqu'à la fin des 6 jours, on en a 5. Pas trop de pertes. Ils font un petit prélèvement en fait sur chaque embryon avant de les congeler et puis ça part au centre d'analyse où là ils font donc ce fameux test génétique qui n'est malheureusement pas autorisé pour l'instant en France. Alors, ils appellent ça aux États-Unis, c'est PGS, c'est un screening génétique pré-implantatoire. Ils vérifient en fait si les embryons ont le bon nombre de chromosomes. En fait, ça leur permet de détecter les embryons qui sont aneuploïdes, donc qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes et qui au final ne seraient pas viables.
D'accord.
Le fameux test permet aussi de connaître le sexe de l'embryon.
C'est dingue, au moment de l'implantation, quoi, du coup.
Donc, c'est aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'en France, ça interdit. Après, c'est une information, il pourrait très bien ne pas l'autoriser.
Ah oui, parce que tu veux dire, parce que les gens pourraient sinon faire de l'eugénisme et dire, je veux un garçon, pas une fille, ou inversement. D'accord.
Si j'ai bien compris, en France, c'est la crainte. C'est une des raisons pour lesquelles ils le font pas. Parce que sinon, il y a que des bonnes raisons, parce que ça permet, aux femmes d'éviter de faire des transferts qui ne servent à rien puisque de toute façon les embryons ne sont pas viables. Donc nous on a cette chance encore une fois que c'est pris en charge complètement par notre assurance, donc on n'a pas hésité une seule seconde à faire le test. Donc voilà.
Et
donc,
alors
il nous rappelle, la médecin nous avait dit au vu de votre âge normalement je m'attends à ce qu'il y en ait au moins 4 qui soient bons génétiquement. Là elle nous appelle, elle dit il y en a que 3, mais il y en a 3. Donc on sait qu'on a 3 qui sont qui sont bons.
Ouais, comme quoi le test c'est quand même vachement important quoi. Ouais.
Après je sais qu'il peut y avoir des cas de figure un peu spécifiques, on appelle ça le mosaïsme je crois, où l'embryon n'est ni bon ni mauvais, il est un peu entre les deux et en fait s'il l'implantait, peut-être que ça se passerait bien.
Donc du coup il y en a 3 et puis donc là on schedule on programme le transfert.
Voilà, donc là elle nous laisse le choix de connaître ou non le sexe des embryons et de choisir ou pas, justement. Parce que je crois qu'il y a des endroits où on peut le savoir.
Ah ouais.
Enfin, où eux le savent, mais te le disent pas forcément. Mais là, eux nous laissent le choix. Puis même, on se dit, si on choisit et que ça marche pas, mais enfin, voilà, est-ce qu'on sera pas puni quelque part d'avoir choisi? Enfin, c'est pas concevable pour nous. Donc, on dit, non, on veut pas savoir. On leur dit, choisissez celui qui vous semble le mieux. Parce que c'est plus un embryon, c'est une petite fille ou un petit garçon.
Ouais. Et si ça marche pas, ça sera encore plus difficile.
Il vaut mieux pas savoir.
Et on vous a proposé d'en mettre plus
alors,
d'un
non, sur ça, nous, elle a été très très claire avec nous dès le début. Enfin, si on voulait en mettre plusieurs, c'était envisageable. Mais elle nous a dit quand on avait moins, enfin j'avais moins de 35 ans, elle dit en plus des embryons qui sont testés génétiquement. A priori, en fait, si ça marche pas, ça vient pas des embryons, mais ça vient d'autres choses. Donc d'en mettre plusieurs, on risque soit de les perdre entre guillemets bêtement parce qu'il y a peut-être un autre problème qu'on n'a pas détecté, soit on risque si ça marche du coup d'avoir des grossesses multiples et ils conseillent pas du tout. Je crois que la recommandation est différente pour des femmes qui sont plus âgées et pour lesquelles les embryons n'ont pas été testés génétiquement parce que justement, on voit moi bien que sur les 5, j'en avais que 3 entre guillemets qui étaient bons. Donc s'il y a pas eu de test, ben en mettant plusieurs, il y a quand même plus de chances que ça marche et il y a peu de chances qu'il y en ait plusieurs qui marchent. Mais quand ils disent voilà, quand on est jeune et en plus avec des embryons testés génétiquement, ils recommandent pas.
Bon, bah super. Donc du coup, c'est parti, transfert.
Voilà, on démarre. Donc là déjà aussi un autre pour moi entre guillemets un petit choc pour moi, je m'étais pas préparée. J'avais compris qu'il y avait des injections pour préparer la stimulation ovarienne pour la ponction, mais j'avais pas réalisé qu'il y en avait pour le transfert. Et pour le transfert en fait, c'est pas 10-15 jours comme pour la ponction. Là, c'est carrément 10 à 12 semaines. Bah oui, quand c'est un transfert d'embryon congelé, en fait, le corps, c'est complètement artificiel. Donc, il n'a pas les hormones qui se font comme si c'était le cas après une ovulation, en fait. Donc, du coup, bah oui. Ça, j'avais pas compris.
D'accord.
J'avais pas réalisé. Et donc là, ça a été un petit choc. Enfin, voilà, une déception.
Bon, ouais, bah ouais.
Bah, c'est autre chose, mais c'est vrai que ça a été un petit peu dur de réaliser ça.
D'accord.
Donc on planifie, suite, hein, dans la foulée en fait. Je crois que c'était il y a peut-être eu un cycle entre les deux ou même pas. Enfin, s'il y a dû y avoir un cycle parce qu'on attendait le résultat du test génétique.
Le test génétique.
Donc, dès le cycle suivant, on démarre. Voilà, bon, classique, hein, j'ai les œstrogènes, alors c'est par voie vaginale. Et donc ils font au bout d'un certain nombre de jours une échographie et prise de sang. Et donc là, ils se rendent compte que j'ai une poche de sang une poche de liquide qui s'est formée. Probablement du sang, pas très encourageant. Ils augmentent un petit peu la dose d'œstrogène et on se revoit 2-3 jours après pour voir ce que ça donne. Et l'endomètre aussi n'est pas très épais.
D'accord.
Parce qu'il faut qu'il fasse 7 mm, je crois, minimum pour envisager un transfert. Voilà.
Donc, pour accueillir, d'accord.
Donc, on y retourne 2-3 jours après. Donc là, ils font une échographie et cette poche est toujours là. Elle est assez grosse, donc ils nous disent on va pas prendre de risque, on annule le cycle. Enfin, pareil, j'avais pas envisagé qu'on puisse annuler, en fait. Un cycle, pour moi, c'était forcément, ça démarrait, on y allait, quoi.
Ouais, bien sûr.
Un peu déçu, surtout qu'après, on réalise que le mois d'après, c'est Noël, et Noël, c'est le seul moment où ils ferment, en fait, le laboratoire. Donc, il n'y a pas de décongélation possible, enfin, de traitement des embryons. Du coup, ça reporte encore au mois d'après. Ce qui n'est pas grand chose, hein, au vu d'un parcours, hein, mais bon, c'est quand même une petite déception. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, elle me dit, vu qu'a priori, j'ai pas hyper bien réagi au traitement, enfin, à l'œstrogène, elle me dit, on va carrément faire des injections d'œstrogène. Ça risque de mieux fonctionner. On n'est plus à ça près en termes d'injection, donc, ok.
Toi qui n'avais pas les piqûres, t'as été servie, là.
On y va, on n'est plus à ça près. Donc ça, on démarre. Et là, à l'échographie, il voit une toute petite tache, mais vraiment, vraiment toute petite. Donc, ils disent a priori pas de souci. Donc, on démarre la progestérone. Donc là, les injections de progestérone, c'est en moyenne 5 jours d'injection avant de faire le transfert. Et donc là, dès qu'on fait les injections, la poche disparaît complètement. Donc, tout est nickel.
Donc, cette fois-ci, c'est le bon cycle, quoi.
On planifie, on va au centre. J'étais un petit peu nerveuse quand même. En plus, il faut boire une certaine quantité d'eau pour avoir la vessie qui est bien pleine. Moi, j'ai une toute petite vessie, donc forcément, j'arrivais pas à tenir sur ma chaise.
Pas facile.
Ça nous a plus fait rire qu'autre chose, donc ça nous a permis de décontracter. C'est pas plus mal, mais
de dédramatiser.
Donc voilà. Donc là, on y croit à fond à ce moment-là.
Ok. Et alors, comment ça se passe?
Ça se passe plutôt bien, sauf que moi, qui ne suis jamais malade, forcément, c'est le moment où j'ai réussi à me choper un rhume. Donc bon, rien de grave, mais ça m'embêtait. Je me dis, moi qui suis jamais malade, c'est pas de bol. Et donc là, on fait la prise de sang le matin, donc et on attend que le téléphone sonne pour avoir le résultat. Là, à ce moment-là, mon mari est au boulot. Voilà, je suis toute seule à la maison. Et donc là, je décroche et je sens tout de suite à la voix de ma médecin que c'est mort. Donc, voilà, je suis...
T'avais tenu, t'avais pas fait les tests toi-même.
Vu que beaucoup de femmes ne tenaient pas et faisaient un test avant, la médecin nous l'avait déconseillé et je m'étais dit non, je tiens, j'en fais pas. Donc, j'avais aucune idée. J'étais plutôt optimiste. J'étais déçue, mais tout de suite dans le coup de fil, en fait, c'est vraiment, je remercie ma médecin. Elle était vraiment, c'est quelqu'un de hyper dynamique et très optimiste. Et tout de suite, elle m'a dit, on va recommencer. Il reste 2 embryons. Ils sont bien testés. Par contre, là, elle me dit, on redémarre pas tout de suite pareil. Je vous propose de faire une hystéroscopie pour aller faire un tour, en fait, donc dans l'utérus et vérifier si tout est OK. Donc déjà, moi qui suis assez rationnelle, ça me plaît parce que je me dis, voilà, on va voir s'il y a pas un problème. Donc,
ouais, on répète pas exactement la même chose. S'il y a un souci, on va le trouver.
Donc, voilà, d'accord. Donc, déçu, mais ça va. Donc là, par contre, j'appelle mon mari qui était au travail pour lui annoncer. Là, lui, ça a plus été grosse déception. Donc lui, il vit pas.
Ah ouais, il y croyait aussi beaucoup.
À fond, et là, il a été, ça a été dur pour lui sur le coup quand je lui ai annoncé que c'était pas bon.
Ouais.
Moi, j'ai réagi plus après, en fait.
Ouais, tu t'es tout de suite reproché dans ce qui allait se passer après, quoi, finalement.
Je suis déçue, mais voilà, c'est pas dramatique.
Ok, alors comment se passe l'hystéroscopie?
C'est pareil sous anesthésie générale. Enfin, c'est pas des grosses anesthésies générales, hein, parce que ça dure pas très longtemps. Je crois que ça dure 15 minutes ou 20 minutes à max l'opération, l'intervention. Donc là, ça, voilà, je me réveille. Là, elle me dit qu'il y avait un peu de tissu cicatriciel. Et là, ça me fait tilt. Je me dis, c'est marrant quand on habitait à Paris, je sais plus, enfin, je sais pas, je devais avoir 24, 25 ans. J'avais eu une échographie parce que j'avais eu des douleurs. Et là, à l'échographie, c'était pas une gynécologue, c'était une spécialiste, d'échographie. Elle m'avait dit, est-ce que vous avez subi un curetage? Je savais pas ce que c'était un curetage, mais elle avait dû voir justement qu'il y avait un peu de tissu cicatriciel. Mm-hmm. Mais cette personne, et ensuite ma gynécologue n'était jamais revenue là-dessus. Elle m'avait pas expliqué ce que c'était, ni à quoi c'était dû. Enfin, voilà. Donc c'était rentré par une oreille et c'était ressorti.
Ouais.
Voilà. Bon, bah là, la médecin après le...
Et donc toi, t'avais pas subi de curetage ou quoi que ce soit?
Rien du tout, parce que j'étais jamais tombée enceinte. Donc là, ma médecin me dit, bon, on sait pas à quoi c'est dû le tissu cicatriciel. Ça peut être une infection, souvent c'est ça. Enfin bon, ça a pas d'importance. Elle me dit, on a bien nettoyé l'utérus, donc c'est tout propre, c'est parfait pour tenter tout de suite derrière un autre cycle.
D'accord. Et donc là, du coup, c'est un transfert, ça vous refait pas un protocole entier, voilà, puisque t'as des embryons au congèle. D'accord.
Donc là, on recommence. Okay. Par contre, on est tous les deux beaucoup plus, avec mon mari, beaucoup plus sur la réserve. On a peur d'être déçus, donc
pour vous protéger, quoi.
On est moins optimiste et on a un peu plus peur, mais bon. On y croit quand même. Donc je refais comme la première fois que ça avait marché, du coup, des injections d'œstrogène. Ça se passe super bien. L'endomètre est prêt quand il faut. On fait le transfert qui se passe aussi très bien. Et là, il y a à nouveau l'attente. Et là, j'avoue, cette attente, la deuxième fois, a été vraiment dure. En plus, c'est vrai que, enfin, c'est à double tranchant parce que comme je ne travaillais pas, en espérant justement tomber enceinte et avoir un enfant. Voilà.
Ah ouais, du coup, l'attente est vraiment super insupportable
pour tous les rendez-vous. Ouais. J'avais pas de stress, j'avais pas d'employeur à prévenir, à peut-être me cacher de ce que je vivais. Enfin, j'avais pas ce stress-là. En revanche, comme je travaillais pas, j'avais beaucoup de temps libre et beaucoup de temps, enfin, trop de temps pour être dans ma tête, en fait.
Beaucoup de temps pour être dans ma tête.
Pour être dans ma tête, pour regarder dès qu'il y a un petit signe, pour aller sur les forums, enfin, le truc à pas faire, et je savais très bien qu'il fallait pas le faire, mais bon, voilà.
Ouais. Puis en plus, étant nouvelle dans un nouveau pays.
C'est ça.
Ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait beaucoup de solitude
quand on est expatrié, enfin, en tout cas, nous, dans notre coin, il y avait beaucoup de Français, donc une communauté, enfin, l'expatrié française qui se, hyper importante. Ouais, voilà. Donc, je m'étais
fait bien accueillie.
D'amis, et là, franchement, je les remercie. Si jamais elles m'écoutent et qu'elles passent par là. Merci beaucoup, les filles. Elles m'ont beaucoup aidée. J'ai tout de suite choisi, avec mon mari aussi, d'en parler librement. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que, c'était, il y avait pas à se cacher, on pouvait en parler, que ce soit avec nos familles ou avec nos amis en France ou sur place. L'attente quand même un petit peu dure et, donc là arrive le jour de la prise de sang, je m'en souviens très bien. Donc on fait la prise de sang, c'est en général, c'est toujours le matin, ils la font vers 8h. Et ils appellent vers midi, 1h. Et là, donc cette fois-ci, mon mari avait dit, il y a pas moyen, on est ensemble pour attendre le résultat. On n'est pas chacun dans son coin pour vivre l'annonce. Donc, on était à la maison. Donc, lui, essayait de travailler tant bien que mal. Et moi, je tournais en rond. Et, juste avant qu'elle appelle, je lui dis, non, mais là, la prochaine fois, je fais un test de grossesse moi-même. C'est insupportable, cette attente. Et je lui dis, et puis tu verras. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, on fait un break. C'est trop dur, quoi. Psychologiquement, là, ça commence à devenir compliqué. Et voilà.
Et puis
là,
finalement, t'as un petit coup de fil.
Là, je sens tout de suite encore à la voix de ma médecin. Donc,
trop bien.
Je lui dis, non, mais c'est vrai. Elle me dit, mais non, mais Aurélie, je vais pas te mentir. pas sur ça.
Non, en fait, c'était une blague.
Ouais, non,
c'était une blague.
C'est vrai, comme on était plus pessimiste et que là, en plus, comme je te dis, je me projetais sur le cycle d'après. Enfin, voilà.
La bonne surprise est presque incroyable, en fait. Hein. On a eu du mal à réaliser. Et ce qui a beaucoup aidé, justement, c'est comme on en a parlé à tout le monde. Ah, forcément, quand on a eu la première fois le test négatif ou cette fois-ci le test positif, bah, c'est qu'on en a parlé tout de suite parce qu'on savait très bien que nos parents, que nos amis étaient en attente. Hein, ils l'ont vécu comme nous. Même si à ce niveau-là, à ce moment-là, bon, moi, de toute façon, je suis prudente et j'ai toujours peur de la fausse couche. Enfin, voilà. Donc,
Ouais, bon, on se protège, quoi.
Qui est la deuxième prise de sang, d'accord, qui confirme que le taux double bien, enfin, tout se présente bien. Donc, je suis quand même, comme d'accord, je te dis, voilà, je suis un peu nerveuse, j'ai peur qu'il y ait un problème. Parce que quelque part, on se dit, non, mais c'est trop beau, enfin, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Mais bon, tout va bien. Au bout de 8 semaines, je crois, ben là, on peut arrêter les injections et puis, ça y est, on va enfin voir le gynécologue normal.
C'est mouvant. Oui, oh, je me souviens, moi aussi, il m'avait dit,
exactement, voilà, je suis là, c'est l'américaine. Alors, on a une petite carte avec le petit mot. On a le hug de circonstance, enfin ouais, et puis ils sont hyper enthousiastes, donc c'est vrai que c'est hyper sympa.
Donc du coup cette première grossesse commence peut-être un petit peu c'était un petit peu stressant, mais finalement ça s'est bien passé pour toi?
Alors oui, je commence un petit peu au fur et à mesure des échographies, de voir le bébé, à bien entendre le cœur. D'ailleurs, c'est hyper émouvant la première fois.
C'est clair.
Surtout qu'on s'y attendait pas, en fait. Nous, quand on a la première échographie, à 6 semaines, on savait pas quoi s'attendre.
C'est rare de l'entendre, déjà.
Et oui, enfin, ça peut, en fait. Mais c'est vrai qu'on s'était pas renseigné sur ce qu'on était censé voir. Et du coup, tout de suite, elle nous l'a fait écouter. Et c'est vrai que en plus, on s'y attend pas, c'est vraiment magique.
Et du coup, t'as un suivi encore plus fréquent, enfin, encore plus régulier qu'une grossesse qui serait arrivée, je dirais, naturellement ou pas du tout?
Alors, au début, au centre de fertilité, oui, ils nous voient, on a une échographie et des prises de sang à 6 semaines et 8 semaines. Et normalement, après, si tout va bien, il peut y en avoir une troisième pour vérifier avant d'arrêter les injections. Mais globalement, voilà, c'est ça le suivi au centre de fertilité. Et puis après, on passe chez une gynécologue classique.
Ouais, donc ça, c'est la graduation.
Voilà, exactement. Après, je sais pas si c'est le cas partout en fonction des pays, mais nous, la seule différence qu'il y a après dans la grossesse, dans le suivi, c'est qu'on a une échographie vers la 22e semaine, je crois, où ils font une échographie du cœur du bébé. Donc, c'est vraiment une échographie détaillée, en fait, juste sur le cœur.
Parce qu'ils ont vu
qu'il y avait une incidence un peu plus importante de malformation cardiaque. Mais voilà, sinon, c'est un suivi normal après en fonction de...
D'accord. Dû à la FIV, les malformations potentiellement, ça tu veux dire?
Ah ouais, a priori. Mais bon. D'accord. Ils savent pas, en fait, si c'est dû à la FIV ou finalement si parce que les couples qui vont en FIV ont des soucis à la base.
Bien sûr. D'accord. Mais donc, du coup, pour vous, tout se passe bien?
Donc, au début, tout se passe bien. Au fur et à mesure des rendez-vous, je commence un petit peu enfin à me déstresser, on va dire. Voilà. Ouais. Et, à 11 semaines, là, je commence à perdre du sang.
Oh merde.
Donc en grande flippée que je suis, je m'en souviens toute ma vie, j'étais au restaurant avec des amis, on fêtait un anniversaire ce soir-là, et là je vais aux toilettes et catastrophe. Donc énorme stress.
On t'avait dit que ça pouvait arriver ou pas du tout?
Non, en plus j'avais eu un rendez-vous chez la gynéco le matin ou la veille, enfin c'était tout allait super bien, donc pas de problème. Et oui, du coup donc gros stress, ça y est, dans ma tête je faisais une fausse couche. J'avais très très peur, très mal au ventre, et du coup je savais pas si finalement j'avais mal au ventre parce que je faisais une fausse couche ou parce que j'étais stressée. Exactement. Donc forcément, comme ça arrive le soir, on joint en personne. Je me suis dit, je savais bien que si on perd un peu de sang, faut pas aller aux urgences pour autant. Donc on passe la nuit, et puis le lendemain matin on va à l'urgent care. Donc encore une spécificité, je pense, américaine. En fait, l'urgent care, c'est pour les urgences non vitales. Donc,
d'accord.
Donc voilà, donc on s'y rend là. Le médecin me parle et me dit, si vous faites une fausse couche, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous voulez quand même que je fasse une échographie? Donc, je dis, oui.
Ah oui, s'il te plaît.
bien sûr, je veux entendre, je vais vérifier que le cœur batte, quoi. Tout simplement. Donc là, le cœur bat, mais en fait, il découvre que j'ai deux gros hématomes, en fait. Je crois qu'ils appellent ça des hématomes sous-chorioniques.
Ça consiste en quoi, chorionique? C'est-à-dire que c'est le cordon?
En fait, ils sont entre si je dis pas de bêtises, entre la poche et l'utérus.
D'accord.
Donc il y a un risque en fait de décollement du placenta.
Ah, et c'est un peu en fait comme la poche de sang que tu avais eu justement sur le premier. Bref,
on n'a jamais, c'est vrai que j'ai jamais posé la question, mais est-ce qu'il y a un lien? Peut-être, je ne sais pas. Donc là du coup, le médecin qui était très très gentil, mais m'explique, il y a rien à faire en fait, il faut juste attendre. Donc après, à partir de ce moment-là, c'est un peu le stress parce que
c'est un peu voilà la grossesse non parenthèse parce qu'on se dit bah soit ça serait les hématomes se résorbent tout seuls et donc tout va bien. Mm-hmm. Soit bah ça se décolle et c'est potentiellement des soucis pour le bébé voire une fausse couche.
Ah ouais. Ah donc, ouais donc toi qui commençais juste à te détendre là,
exactement.
Coup,
ouais. Voilà, là bon le stress, on a une échographie un petit peu plus tard où on voit que les deux hématomes ont fusionné, n'en forment plus qu'un, du coup un gros. Mais
c'est bien ou c'est pas bien ça?
Bah je sais pas. Ma gynéco est assez rassurante, elle dit dans la grande majorité des cas ça se résorbe tout seul, donc faut pas.
D'accord.
Voilà, faut attendre. Et là, mais
entre temps les pertes de sang s'étaient arrêtées?
Ouais, j'en avais quasiment plus. Finalement, d'accord, j'ai pas perdu grand chose.
Ouais, c'est juste que donc, c'est super impressionnant quoi.
Mais voilà, c'est juste que c'est la crainte. C'est vrai que du coup moi c'est un truc qui est resté. À chaque fois que j'allais aux toilettes, dès que je m'essuie, je regardais de quelle couleur c'était, s'il y avait du sang. Ouais. C'est voilà. Ouais, donc, mais bon, bah finalement, après, au bout d'un petit moment, on ne voit plus. Je crois que c'est à partir de la moitié de la grossesse ou un peu plus tard, on ne voit plus du tout les hématomes.
Donc, d'accord.
Ah, ça va bien en plus. Bah, ça met un petit peu de temps. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas eu des échographies plus fréquentes pour autant, donc c'est vrai qu'on se rend pas trop compte entre deux. Il y a pas de suivi finalement. Donc, ouais. On ne sait pas à partir de quand vraiment ça s'est résorbé.
Ouais, d'accord. Mais les nerfs doivent être mis à rude épreuve quand même. Hein.
D'attendre. Un petit peu, ouais.
Du coup, tu l'as senti, tu te souviens à peu près à quelle semaine tu l'as senti bouger la première fois?
Je crois que je l'ai senti vers 20... non, assez tôt, je crois. 18, 19 semaines. Donc assez tôt. C'est vrai que là, ça change tout, je trouve. Que... Ouais. On est tout de suite rassuré de sentir
les
mouvements.
Il y a quelqu'un à bord, quoi.
Voilà, exactement, exactement.
D'accord.
Okay. Voilà, et puis bah, après, on a appris que c'était une petite fille. Donc là, voilà, ça devient concret. Là, on a vraiment réussi à se détendre. Et puis, bah si, l'autre petit... Petit fait notoire, c'est que au test du diabète gestationnel, où j'y allais en, comme beaucoup de femmes, en disant oh là là, je vais boire un truc pas bon. Enfin, j'angoissais un peu de faire le test, mais en fait, j'avais jamais réfléchi à et si je suis dépistée positive, parce que pour moi, c'était complètement impossible. Je suis assez fine de nature, je mange équilibré. Enfin, pas d'antécédents dans ma famille. Et donc là, grosse surprise, je fais du diabète gestationnel.
Oh merde.
Ce qui est pas grave, hein, pas grave du tout. C'est un peu contraignant au niveau de l'alimentation, mais malheureusement dans mon cas, on n'a pas réussi à le contrôler juste par l'alimentation et l'exercice. Donc, pourquoi pas, hein, j'ai eu droit à des injections.
Encore des piqûres. C'est pas vrai.
Donc bon, pas grave. Hein. Mais ça, quand la nutritionniste m'a dit, elle m'a regardée, mais vraiment désolée en me disant. Il va falloir passer aux injections d'insuline. Et là, à ce moment-là, elle n'avait pas regardé mon dossier. Elle ne savait pas que j'avais fait la fécondation in vitro. Et je lui ai dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave.
J'ai vu bien pire.
donc voilà. Mais bon, tout s'est bien passé.
D'accord.
C'est juste un petit détail, on va dire.
Ouais, ouais, enfin, un détail, ça fait beaucoup. Mais oui, d'accord, ok. Bon, super. En tout cas, tu gardes... un super moral, on dirait. Tu te concentres sur l'objectif, du coup, la rencontre avec ta fille.
Voilà. Du coup, qui dit diabète gestationnel avec insuline, je sais, aux États-Unis, en tout cas, ça veut dire déclenchement à 39 semaines.
Ah, d'accord, ok.
Donc, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, parce que, un déclenchement, on sait que parfois, ça a des risques de se terminer en césarienne et pas très bien se passer. Mmh. Mais voilà, effectivement, l'accouchement a été très long.
Ouais.
Mais voilà, j'ai pu accoucher quand même par voie basse et ma fille ça s'est très bien passé. J'ai eu une petite hémorragie de la délivrance par contre parce qu'à la fin ils ont pas réussi à bien le placenta, il restait des petits bouts en fait.
Ah mince, d'accord.
Donc j'ai eu droit au fameux curetage que je ne savais pas ce que c'était. Donc la gynéco m'avait parlé il y a plusieurs années. Je savais ce que
malheureusement,
c'était.
Malheureusement, tu sais ce que c'est. D'accord.
Ah bon, c'est pas très grave, hein, mais.
D'accord. Mais ça va, ils ont réussi, du coup, à gérer ça à temps, parce que ça peut être dramatique,
Non. Elle s'en est, à l'accouchement, la gynécologue a tout de suite, quand elle a vérifié l'utérus, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, donc, elle m'a tout de suite,
tant mieux.
Tout de suite prise en charge, donc pas de problème.
D'accord. Ok. Bon, super. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, ta fille?
Elle s'appelle Léna.
D'accord. Super. Donc, une belle rencontre. Un bébé en pleine forme?
Ouais, tout va bien, tout se passe bien, nickel.
D'accord, ok, super.
Un petit peu dur de réaliser au début, je pense, mais bon, après ça, je pense que ce soit un bébé qu'on passe par un parcours de PMA ou pas, c'est toujours un grand chamboulement de devenir parent.
Ah, c'est clair, c'est clair, j'imagine, oui. un peu du mal. Et puis surtout, en plus, avec la distance. Enfin, je sais que tu disais que tu t'étais recréé un groupe d'amis, un réseau quand même sur place, mais enfin, remarque, je sais pas quelles sont tes relations avec tout le monde, mais en étant loin de la famille, en étant loin justement de ses parents.
Mais du coup, ça fait déjà quand même à ce moment-là de 3 ans qu'on est aux États-Unis. On est habitué à s'appeler, voilà, à s'appeler par vidéoconférence. Donc, on finalement, c'est une relation différente, mais on en parle souvent avec ma famille. Quand ils viennent à nous voir, ils viennent souvent 2 ou 3 semaines. Du coup, on est ensemble tout le temps par rapport à se voir quelques heures ou un week-end de temps en temps. Donc, c'est un autre type de relation. C'est assez fort aussi. Donc, et puis, on s'appelle régulièrement et puis on passe du temps ensemble quasiment tous les week-ends, voire plus, hein. Donc c'est pas, enfin je pense que c'est dur plus pour eux en fait du coup de voir un, voilà, de devenir grands-parents et de pas pouvoir prendre le voilà le bébé dans les bras. C'est, mais bon bah, c'est comme ça.
Oui, non, bah, c'est ça, on peut pas, on peut rien y faire pour l'instant, donc super. Et puis tant mieux, du coup ça s'est bien passé. Ouais. Alors du coup à ce moment-là, la famille est au complet ou est-ce que vous, ce que t'avais l'air de me dire, c'est que vous vous êtes rapidement dit bah le petit deuxième, si on se penchait sur la question rapidement.
Exactement. Bon, en fait, on avait toujours, quand on parlait d'avoir des enfants, on avait toujours imaginé avoir 2 enfants. Et puis en plus, on savait qu'on avait encore un embryon qui restait. Donc, on s'était déjà, avant que Léna naisse, on avait commencé à parler timing et de se dire, ben, quand Léna a eu 1 an, on s'est dit, bon, bah, c'est le bon moment pour envisager. On avait 35 ans. On savait que potentiellement, ça pouvait marcher du premier coup. Mais si ça ne marchait pas, voilà, combien de temps ça pouvait prendre, 6 mois, 1 an, plus.
D'accord.
Donc on s'est dit, bon, bah, on connaissait pas du tout le time, enfin comment ça allait se passer. On n'avait pas parlé avec le centre de fertilité, si on voulait un deuxième, est-ce qu'il y avait du délai, enfin comment, quel était le processus, on savait pas du tout. Donc là, on s'est dit, bon, bah, on reprend contact avec eux et puis on voit comment ça se passe.
Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Bah là, elle nous dit, bah, j'ai de la place, vous pouvez venir. Je crois qu'elle a dit, vous pouvez venir dans 2 jours pour faire le point. Ah ouais, non mais c'était
génial. Ouais.
Donc voilà, on fait un rendez-vous. En plus, on y va avec Léna, donc ça permettait aussi. C'était assez symbolique, hein, voilà, notre médecin rencontre notre fille, puisque c'est quand même, voilà, grâce à eux qu'on l'a eu. Donc voilà, donc là, elle nous explique le timing. Bah c'est un, comme on a l'embryon de près, ça peut aller très vite. Elle me fait une échographie pour vérifier si tout va bien. Elle voit, ben là, sans grande surprise, vu que j'avais eu un curetage 7 fois, elle voit du tissu cicatriciel à nouveau dans l'utérus. Mm-hmm. Donc elle me dit, bon, ben, on fait comme l'autre fois, on programme une hystéroscopie avant de faire le transfert, comme ça,
pour être bien clean,
l'utérus sera, voilà, bien nettoyé, et puis on part sur de bonnes bases.
Okay.
Et puis elle nous dit, depuis la dernière fois, il y a, donc, la science à ce niveau-là évolue tout le temps, c'est ça qui est assez fou. Elle nous dit qu'il existe un test qui est possible de faire, qui pourrait être intéressant dans notre cas, qui s'appelle l'ERA, donc en anglais, donc c'est l'Endometrial Receptivity Analysis. En gros, ils analysent la réceptivité de l'endomètre. C'est-à-dire que dans un cycle normal de transfert, on a des injections, enfin dans mon cas c'est des injections, mais on a un apport d'œstrogène. Mm-hmm. Et quand on estime que l'endomètre est assez épais, donc c'est, il faut que ce soit, je crois, 7 mm minimum, on commence les injections de progestérone, et c'est 5 injections de progestérone et le transfert a lieu. Donc il y a eu des études qui montrent que pour certaines femmes, finalement 5 jours c'est pas optimal pour l'endomètre. Parfois, il vaut mieux en faire un jour de moins, un jour de plus. Enfin, ça peut être variable. Mm-hmm. Et donc, ce test, en fait, il consiste à faire un cycle de transfert à blanc. Sauf que le jour du transfert, au lieu de faire le transfert, en fait, il réalise une biopsie de l'endomètre.
D'accord.
Et après, il l'analyse et ça leur permet de dire, voilà, la fenêtre de tir, c'est bon. Les 5 jours, ça suffit. Ou il faut un peu plus ou un petit peu moins.
Ah, c'est vachement bien, ça. D'accord.
Bah oui. Donc moi j'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Elle me dit, bon, par contre, comme c'est assez récent, les assurances ne prennent pas en charge. Mm-hmm. A priori, même la nôtre qui est spécialisée en fertilité ne le prend pas en charge. Ça coûte à peu près 700 000 dollars, donc c'est pas une petite somme. Mm-hmm. Mais bon, en même temps, elle nous le dit, il vous reste qu'un embryon, ce serait bien de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Donc là, on se laisse le temps de la réflexion, on rentre chez nous, je me renseigne un petit peu plus sur le sujet puisque je ne connais rien. Et puis, bah, je me méfie un petit peu parce que, comme on est aux États-Unis, la médecine, c'est quand même un business. Donc,
c'est vrai.
Voilà. Est-ce qu'on me propose quelque chose parce que j'en ai besoin ou est-ce que, voilà, c'est pour faire de l'argent? Enfin, bon, je suis quand même un petit peu méfiante. Et donc, je regarde ce test. En fait, il est plutôt prescrit quand il y a eu plusieurs antécédents d'embryons qui n'accrochent pas.
A priori, j'en ai eu qu'un, toi.
J'en ai eu qu'un. Et le suivant, ça a marché. Enfin, je suis pas vraiment concernée directement. Mais bon, en même temps, je me dis, voilà, ça fait ce qu'elle me dit, résonne en moi, hein, je n'en ai plus qu'un. C'est vrai que faire refaire un cycle de
stimulation ovarienne,
si on peut éviter, bon.
C'est clair.
Finalement, c'est pas grand chose. C'est juste faire les injections, pendant 2 semaines, comme pour un transfert et une biopsie. Bon, j'ai lu que la biopsie pouvait être un petit peu désagréable, mais bon, c'est pas grand chose.
D'accord.
On réfléchit, puis on se dit, bon, bah, allons-y, mettons toutes les choses de notre côté. On voudrait pas regretter de pas l'avoir fait.
D'accord. Alors, avant que tu m'en dises plus, juste, où est-ce que tu as trouvé justement des informations là-dessus? Parce que c'est toujours un peu une bonne partie de la bataille, c'est où est-ce que tu as trouvé des informations fiables sur ces tests, etc.
Voilà, exactement. Donc là, bon, bah, Google a été mon meilleur ami. Et en fait, complètement par hasard, vu que c'est assez nouveau, il n'y a pas non plus tant de sites qui en parlent. Et je suis tombée sur un site américain du coup, qui a été fait par un couple qui est passé par la FIV et qui met en place beaucoup d'informations pour les couples qui passent par là. Et il y a beaucoup du coup d'articles qui sont rédigés par des gynécologues, des spécialistes, et ils font même des formations en ligne. Donc je lis l'article en fait rédigé par une gynécologue.
D'accord.
Donc, qui est vraiment bien fait, très clair. Donc, voilà, je trouve vraiment les informations que je recherchais.
Que tu cherches, quoi. Ouais, ok, voilà. Super, d'accord. Donc, du coup, ça te met en confiance et donc tu te dis, vous en venez à la conclusion que vous allez
se dit que bon, c'est sans doute pas nécessaire, qu'a priori, si moi ça a marché, le test va certainement dire qu'il me faut 5 jours de progestérone et puis voilà. Mais bon, au moins, ce sera, voilà. On ne regrettera pas de l'avoir fait. Enfin, de pas l'avoir fait, pardon.
Ouais, d'accord, oui, je comprends. D'accord. Et alors, du coup, comment ça se passe, alors, ce test?
Donc, voilà, ça se passe bien. La biopsie, j'ai vraiment mais rien senti, donc pas de problème.
Oh, génial.
Au bout de quelques jours, on a les résultats. Et puis là, bah, surprise, finalement, non, en fait, il me faut 24 heures de plus de progestérone. D'après le test.
Comme quoi?
Donc, super. Apparemment, c'était utile. Donc, voilà, j'ai eu l'hystéroscopie aussi entre-temps. Au final, d'ailleurs, ils ont vu quasiment pas de tissu cicatriciel par rapport à l'échographie, donc... C'est tout clean, mais voilà, il y avait pas grand-chose à enlever au final.
Bonne surprise.
Donc, voilà, bonne surprise. Donc du coup, bah on planifie le transfert. Mm-hmm. Et puis bah voilà, tout se passe bien. Le transfert se fait pareil, tout se passe bien. Et puis bah là, rapidement, j'ai eu des nausées.
Ah ah, t'avais donc, pas eu du tout de symptômes de ce genre-là pour ta fille?
Bah le premier transfert qui avait échoué, je cherchais tous les petits signaux, j'avais eu l'impression, mais j'étais pas sûre.
D'accord.
Et puis pendant ma grossesse, moi, j'avais eu des nausées. Pour ma fille, et je me souviens, dès que je me brossais les dents, le goût du dentifrice dans la bouche, vraiment, ça m'écœurait. Et là, Et là, ça a commencé à faire pareil. Donc, je me suis dit, voilà, j'étais intime, enfin, j'étais persuadée que c'était bien. Mon mari me dit, non, mais tu t'enflammes, ça fait quelques jours, c'est pas possible. Et en fait, c'était bon.
Génial. Et cette fois-ci, t'as réussi à attendre, parce que t'avais dit la dernière fois que t'attendrais plus.
Voilà, non. C'est bon, là, j'ai réussi à attendre. Mais en fait, c'était différent. Là, du coup, on avait déjà Léna. Déjà, donc on était un peu rassurés parce qu'avant, ce qui fait peur, je pense, à tout le monde, hein, c'est de se dire, on n'aura pas d'enfant.
Ouais.
Et ça, c'est dur. Alors que là, du coup, j'avais déjà Léna. On savait que ça avait marché, donc j'avais pas cette crainte-là. Et puis mine de rien, quand on a aussi un autre enfant, on est bien occupé, donc on a beaucoup moins de temps pour. Comme je te disais, j'avais moins de temps pour être dans ma tête.
Non, mais c'est ce que tu me disais aussi quand on préparait cet épisode. Tu me disais, j'aurais aimé savoir que ça va finir par marcher finalement, parce que c'est beaucoup de stress, de tristesse, et c'est difficile d'envisager qu'on n'aura peut-être pas d'enfant. Mais c'est bien sûr, c'est impossible de savoir que ça va marcher, mais c'est vraiment ça.
Tu vois les choses tellement différemment si on pouvait être sûr que finalement ça va marcher.
Même si c'est dans 10 ans. Le fait c'est de savoir ça. Que ça va marcher, ça
exactement.
Change tout.
Ouais. Voilà, sûr. Ça te libère d'un poids. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vécu complètement différemment cette deuxième fois.
Donc du coup, si mes calculs sont bons, donc Léna avait 1 an quand vous vous êtes rapprochée à nouveau du centre de fertilité. Vous avez fait donc un cycle à blanc, le temps de faire les rendez-vous, etc. Elle avait quoi?
Elle avait du coup 15 mois. Ça a duré 3. Oui, ben voilà, parce que j'ai eu
15 mois. J'ai eu 15 mois. T'étais enceinte de nouveau. C'est dingue quand même.
C'est fou, hein. Du coup, c'est vrai que j'ai eu souvent la question du coup de est-ce que je suis tombée enceinte naturellement?
Ou c'était voulu.
Et voilà, et j'ai eu une de mes tantes qui m'a dit, parce que elle avait justement mon cousin qui galérait un petit peu avec sa fille, qui me dit mais c'était voulu.
Eh oui.
Alors c'est vrai qu'on pensait pas que ça marcherait aussi vite, donc c'était aussi pour ça qu'on avait démarré tôt, mais on avait conscience que ça pouvait marcher, et puis on avait 35 ans, donc on n'était pas vieux, mais on savait qu'on n'était pas jeune non plus. Et puis voilà, la petite enfance, c'est quand même un très bon moment, mais c'est aussi un moment qui est très prenant. Fatigant et très prenant, voilà. Donc on avait aussi envie de connaître la phase d'après avec des enfants, voilà. Du coup, on
ouais, assez suffisamment proche, quoi. Bien sûr.
Exactement, voilà.
Et alors cette grossesse, est-ce qu'elle se passe bien aussi? Tout va bien?
Alors du coup oui, on est hyper serein dès le début, tout va bien. Sauf que dans l'euphorie entre guillemets et dans la pareil, cycle de transfert, ça voulait dire des injections pendant 8 à 10 semaines tous les jours. Mmh. Et puis là, on fait une grosse boulette sans s'en rendre. Enfin, on s'en rend pas compte tout de suite. En fait, donc j'avais toujours des injections de progestérone et d'œstrogène. Et en fait, c'est deux petites fioles de médicaments qui sont identiques, qui sont vraiment la même taille, qui se ressemblent complètement. Et en général, c'était moi qui préparais les seringues et mon mari toujours qui me faisait les injections. Et un jour, j'ai mal rangé les flacons, j'ai inversé les flacons dans leur boîte.
Oh mince.
Et voilà. Et du coup, suite au test de grossesse, la positive, ma médecin me dit, vous pouvez arrêter les injections d'œstrogène, on va continuer uniquement avec les comprimés. Ça vous fera plus que la progestérone, ça vous fera une injection en moins, donc chouette. Donc du coup, je range mon flacon de progestérone dans la boîte d'œstrogène que je range du coup dans mon placard. Sauf que bien sûr, quand on est à ce stade-là de la grossesse, la progestérone, c'est ce qui est hyper important pour que la grossesse soit viable. 4-5 jours après, je suis pas là, en fait. Mon mari arrive avant moi pour préparer les injections. Du coup, il a pas fait ça depuis longtemps, donc il est hyper méticuleux, il regarde tout, voilà. Et puis là, il se rend compte que c'est pas le bon flacon dans la bonne boîte. Parce que moi, depuis 4-5 jours, en fait, je m'en rendais pas compte. Je remettais mon flacon dans ma boîte, pas de problème. Donc là, énorme stress. Forcément, c'est le soir, le centre de fertilité est fermé. Vraiment, grosse panique. Je me dis, c'est une énorme boulette et ça va nous coûter la grossesse.
Ah ouais, du coup, tu penses que c'est fini, quoi.
Bah oui. Alors après, je savais que coup de chance, ma médecin, en plus des injections de progestérone, j'avais des comprimés par voie vaginale. Donc, j'avais quand même un petit apport en plus. Donc, j'avais pas rien eu au final du fait de supprimer les injections. Donc là, j'appelle en gros stress. L'infirmière me rappelle en me disant, Aurélie, respire, ne t'inquiète pas. Normalement, ça peut très bien se passer. Donc, et là, puis on fait les échographies. Le bébé, l'embryon est un petit peu petit, mais rien de catastrophique. Le cœur bat pas très vite, mais bon, il bat, voilà.
D'accord.
Donc on a quand même un petit moment de stress pendant plusieurs semaines, mais voilà, on souffle et puis rapidement tout est confirmé que tout va bien, donc c'est bon, mais
on se dit mais comment ça se
voilà et puis on se dit mais comment ça se fait, on faisait tellement attention, voilà, mais là je pense que c'est voilà la lassitude, c'est de faire ça pendant des semaines et des semaines,
un enfant en bas âge, t'as la fatigue au début de la grossesse, et puis le fait quand même que ce soit exactement les mêmes fioles aussi, ça paraît quand même complètement fou. Prochaine fois, tu le marques avec du scotch rouge.
Je peux dire que les injections suivantes ont vérifié bien à 2 fois, ensuite mon mari. Non mais ouais, le coup de stress. Après, j'en ai discuté un petit peu avec des amis, des gens autour de moi, je me rends compte que finalement, c'est fréquent que les gens fassent des erreurs dans l'administration des traitements. Après, le problème, c'est qu'il y en a où ça peut être juste un coup, une fois, et finalement, ça n'a pas de conséquences. Mais parfois, quand c'est sur des choses essentielles ou sur plusieurs jours, ça peut être grave.
D'accord.
Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien.
Ok, tant mieux. Alors, donc, du coup, le reste de la grossesse se passe sans souci?
Voilà, la grossesse se passe bien. Bon, une grossesse forcément un peu plus fatigante quand on a un deuxième enfant à gérer, mais tout se passe bien. J'ai pas de perte de sang et je n'ai pas de diabète gestationnel.
Ah, c'est super.
Alors que ma gynéco m'avait préparé en me disant
Aurélie, si vous l'avez eu une fois, vous l'aurez encore.
Vous l'avez eu une fois. A priori, en plus, c'est probablement génétique puisque il n'y a pas de facteur de risque, donc c'est sûr que vous allez en avoir à nouveau.
Ah bah, super surprise alors, génial.
Ah ouais, bonne surprise. Du coup, là, les injections sont vraiment terminées.
C'est ça.
J'ai pas surveillé ma nourriture.
Et donc, pas de déclenchement non plus.
Et donc, pas de déclenchement.
Ah,
mais
ça,
ah. Bébé ne veut pas arriver.
C'est vrai.
Moi qui étais persuadée d'accoucher, le terme, c'était le 1er janvier. Donc, j'étais persuadée d'accoucher avant Noël. Enfin, voilà, j'étais prête. Ouais. Je me sentais prête. Il allait venir, c'est sûr. En plus, le col bien ouvert, tout. Enfin, voilà. Et puis non, bah, ce petit coquin, il voulait pas sortir. Mais bon, ça a fini quand même par arriver 2 jours avant le déclenchement pour terme, pour dépassement de terme.
Dépassement de terme, c'est même pas forcément un dépassement en France, non? Parce que alors, c'est 48 semaines en France, c'est 40 semaines
aux États-Unis, c'est 40. Donc j'avais dépassé le terme, mais ils avaient dit qu'ils me déclencheraient à 41, qu'ils voulaient quand même pas prendre de risque. Donc il est arrivé à 40 plus 5, je crois.
D'accord. Donc
finalement, à quelques jours du terme, d'un terme français, exactement.
D'accord. Ok. Bon, super. Alors, cette rencontre, tout va bien? Bébé va bien?
Voilà. Bon, il a eu la bonne idée d'avoir le cordon enroulé autour de lui, ce qui faisait que, voilà, la poussée a été un petit peu longue. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, j'ai encore fait une hémorragie de la délivrance. Cette fois-ci, c'était le placenta qui voulait carrément pas sortir. Donc voilà, petite transfusion sanguine pour que, pour reprendre des forces. Mais bon, voilà, c'est...
Ça a été quand même.
Ouais, ça a été. Puis au contraire, finalement, je regrette presque de pas avoir eu de transfusion sanguine la première fois, parce qu'après, je me sentais tellement mieux.
Ouais, tu t'es trop boostée quand même.
Exactement. Donc, j'étais pressée de faire cette rencontre parce que, je sais pas, avec ma fille, comme c'est la première fois, on sait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, là, j'étais hyper prête et, et voilà. Donc, très bonne rencontre.
Génial. Et alors, ce petit garçon, comment il s'appelle?
Evan.
Super. D'accord. Ouais. Et alors là, du coup, il est tout jeune, là? Parce que c'était
là, il va avoir bientôt. Enfin, il a 5 mois et demi exactement.
5 mois et demi. Waouh. Wow. Ouais. Ok.
Voilà.
Génial.
Donc, il a connu quasiment que le confinement, le pauvre.
Le pauvre.
C'est un
clair.
Bébé confiné. Donc là, c'est là pour le coup là où la distance avec notre famille nous pèse, parce que nous, on est encore. Donc là, on est au mois de juin.
Ah oui,
pour le coup,
rencontrer
nous,
encore.
Et voilà. Donc moi, mes parents ont eu la chance de venir et de repartir juste quelques jours avant le confinement.
D'accord.
Mais voilà, les parents de mon mari et la sœur de mon mari qui devaient venir après, bon, malheureusement, n'ont pas pu venir.
D'accord. Ok. Oh, mais on espère que vous allez pouvoir organiser cette rencontre.
On espère qu'on puisse rentrer. Voilà. Ouais. Enfin bon, je sais que bon, c'est pas que le fait d'être expatrié. Hein, pour beaucoup de gens aussi en France, ça a été le cas.
Ouais.
D'avoir des accouchements particuliers.
Maintenant que c'est ouvert, tu peux aller dans ta voiture et même quitte à faire 5 heures de route, mais les gens sont quand même plus libres, quoi. Là, c'est vrai que les frontières sont fermées, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Tu disais que donc t'as fait beaucoup quand même de recherches. Tu ne connaissais pas forcément des gens qui étaient passés par là. Quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ton parcours, des choses que voilà, tu penses qui pourraient être utiles à quelqu'un qui se lancerait dans un parcours à l'étranger, notamment par exemple, ou pas que.
Si c'est pour un parcours à l'étranger, ouais, c'est bien se renseigner sur la prise en charge, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, chez nous, les prix sont exorbitants, donc la prise en charge est capitale. Donc ça, bien se renseigner. Après, au niveau ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce que je t'ai dit, c'est savoir que ça va marcher, parce que finalement, c'est ça qui aurait eu le plus d'impact, moi, sur mon parcours, c'est de pas avoir ce stress, hein. Mais bon, ça, c'est pareil pour tout le monde, et malheureusement,
il n'y a pas de solution là-dessus.
Non. Voilà. Après, moi qui angoissais beaucoup, et mon mari aussi, sur les injections, c'est de se dire, voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement, c'est pas si horrible que ça, et finalement, c'est pas ce qu'on retient. Le corps est bien fait, on oublie vite. Bon, c'est facile à dire après, hein. Je sais quand on est en plein dedans, c'est pas le cas, hein, mais je pense que ça m'aurait peut-être rassuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Et puis c'est vrai que je pense aussi, bon, nous on a, comme je te l'ai dit, on avait transparent, on avait beaucoup parlé autour de nous, mais le conseil que je peux donner aux gens, c'est s'ils s'en sentent capables, c'est vraiment d'en parler quand ils se lancent en parcours, parce que ça peut permettre de délier quelque part les langues et de savoir que peut-être des gens autour d'eux sont passés par là. Et je pense que ça peut aider, en fait, de vraiment d'en discuter. Nous, ça nous a un peu manqué de pas pouvoir en parler avec des gens. Parce que du coup, je me suis un peu repliée, sur Internet, sur, pas tant que ça, sur des blogs. Instagram, je connaissais pas trop, je savais pas trop si c'était si répandu que ça à l'époque. J'avais trouvé, par contre, des familles sur YouTube qui en parlaient, des familles américaines, donc, du coup, qui permettaient de suivre un petit peu leur parcours. J'avais regardé ça. Mais c'est vrai que rien ne remplace, je pense, de pouvoir en parler avec des personnes qui sont passées par là.
Ouais, à qui tu peux poser finalement toutes tes questions aussi. Tu peux partager tes doutes, tes joies aussi, bien sûr. D'accord. Super. Alors, du coup, donc, si mes calculs sont bons, donc vous avez commencé, vous êtes senti prêt donc pour ce projet bébé en 2015. Léna est donc arrivée il y a 2 ans et demi.
Il y a 2 ans et demi, ouais.
2 ans et demi. Et puis donc Evan, il y a presque 6 mois. Comment est-ce que vous avez pris soin de votre couple pendant tout ce parcours? Les couples sont parfois mis un peu à rude épreuve avec l'attente, avec le fait que, bah voilà, c'est quand même difficile.
Ouais.
C'est difficile d'avoir la, bah, ce parcours en fait qui dicte beaucoup beaucoup d'aspects de ta vie pendant pendant quelques mois voire quelques années. Est-ce que vous avez mis des choses en place? Comment ouais. ça s'est passé de votre côté?
Alors bah au début on n'a pas forcément mis de choses en place. On prenait les choses telles qu'elles venaient. On avait la chance d'être un couple, on va dire, assez soudé. Donc on n'a pas forcément ressenti le besoin de faire des choses en particulier. Moi déjà, j'étais hyper soulagée que Jérémy fasse les injections et du coup vraiment contente qu'il s'implique autant. Donc voilà, je pense qu'on était vraiment impliqués tous les deux au même niveau dans le super. Parcours en fait, donc ça c'était mmh. vraiment important. Après, quand il a commencé à avoir le premier échec, c'est là où on s'est dit bon, on va essayer de se faire à chaque fois qu'il y a un échec, on se prévoit quelque chose avant pour se dire voilà, si ça marche pas, on fait quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous change les idées.
Ouais.
On a eu l'immense chance finalement de pas avoir eu à le faire souvent. Ouais. Mais après le premier transfert qui avait raté, on a fait une course. C'était une course bête, c'était 5 km, c'était organisé par la ville, mais voilà, ça nous a changé les idées.
Un objectif, le fait de finir.
Exactement. D'accord, et on s'était dit pour le deuxième transfert que si ça n'avait pas marché, ben on irait changer les idées, on irait à Disney faire tous les manèges à sensations fortes que si j'avais été enceinte, j'aurais pas pu faire. Enfin voilà, c'était aussi de se prévoir quelque part des choses qui nous changent.
Ce que tu pourrais pas faire si ça avait marché aussi, du coup on dirait.
Voilà, exactement.
C'était ça. Voir un donc, peu savourer la vie d'une autre manière, quoi. C'est une bonne idée.
C'était ça, ouais. Et puis, finalement, on n'a pas mis en place grand chose de particulier, mais voilà, c'était vraiment je pense qu'on en discutait de toute façon facilement, et puis on a eu la chance que ça marche assez vite. Donc, on n'a pas eu, je pense, peut-être que l'usure qui peut se mettre en place quand il y a des gens qui ont des parcours qui durent sur des années. Après, c'est un petit peu différent pour la deuxième fois. Bon, ça a été très vite au final, mais quand on a déjà un enfant, en plus, quand on est expatrié, nous, on n'avait personne à qui confier Léna. Donc, donc clairement, on n'a pas de temps pour nous. Donc,
ouais.
Mais bon, voilà, ça a été rapide et il n'y a pas eu de soucis.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, je pense que tu es... Enfin, je ne suis pas dedans pour le moment, mais tu ne dois pas être du tout dans le même état d'esprit quand tu te lances pour un second. C'est intéressant, oui. Je sais pas si tu peux développer un petit peu justement.
Comme je disais, la principale différence pour nous, c'était voilà, comme on savait qu'on avait réussi, on avait quand même un stress vraiment en moins. Mm-hmm. Après, ce qui était plus dur à gérer, c'est que je voulais absolument pas que Léna se rende compte. Je voulais pas qu'elle nous voie faire les injections.
Ah ouais.
Elle était petite, elle avait 2 ans. Enfin là non, même pas. Elle avait même pas 2 ans à l'époque, mais non, je voulais pas qu'elle voie ça. Je sais pas ça. J'avais peur que ça lui fasse peur ou qu'elle se pose des questions. Je sais pas ce que je me disais, mais voilà, j'avais pas envie. Du coup, c'était un peu compliqué à gérer puisque on avait une petite fille qui ne dormait pas très bien. Donc, trouver des moments pour le faire parce qu'il faut quand même être, il faut pas être stressé au moment où on fait son injection, bien sûr. Donc ça, c'était un peu plus, c'était un truc un peu plus compliqué à gérer. Voilà, logistique, mais c'est pas grand chose. Mais okay. Oui, après, c'était plus, la fatigue à gérer, gérer aussi les rendez-vous fréquents alors qu'on n'a pas forcément la famille sur place, mais on a la chance d'avoir nous, des amis qui sont super quelque part quand on est expatrié. Les amis, ça devient notre seconde famille. Donc, c'est vrai qu'ils ont assuré. On a pu leur confier Léna le temps de rendez-vous. Et puis Léna, elle est quelques jours aussi à la crèche. Donc, on s'arrange en fonction de ça.
Super, d'accord. Et alors, est-ce que vous avez prévu de leur en parler à vos enfants, de comment ils sont arrivés, de la fille
Alors oui.
Vous n'avez pas vraiment décidé?
Si, bien sûr, ce sera pas du tout une surprise. Maintenant, on n'a pas encore bien réfléchi à quel âge l'amener, comment l'amener. On pense... Instinctivement comme ça, on se dit c'est au moment où on abordera la fameuse question de comment sont faits les bébés qu'on leur expliquera que normalement c'est comme si, mais que quand parfois ça ne marche pas et que ça a été le cas pour eux, de leur expliquer. D'ailleurs, parfois, j'en rigole et je me dis quand ils me demanderont comment on fait les bébés, je pourrais avoir une réponse. Je pourrais leur dire la façon dont eux sont faits et pas expliquer l'autre façon.
Oui, t'as raison pour la normaliser.
ça fait rire mes copines, mais non, on leur expliquera bien. Mais dans ma tête, je me dis que peut-être c'est à ce moment-là qu'on leur expliquera.
Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Donc, il y a des bouquins super pour commencer à, enfin des histoires en fait justement pour commencer à raconter.
Ouais, exactement. Je sais que ça existe. Il faut que je regarde. Après ça, que j'aime bien regarder les livres en français. Donc ce qui est un autre problème quand on est expatrié donc dans un pays où il n'y a pas de livres en français. Enfin, après, je pourrais très bien prendre des livres en anglais, mais oui, c'est. Je vais regarder ça aussi. On n'a pas trop réfléchi au comment encore.
Ouais, bon, vous avez le temps encore. Hein. Mais, d'accord.
Oui, je pense que c'est différent quand c'est une adoption ou un don d'ovocytes ou un don de sperme, où là, je pense qu'il faut l'évoquer peut-être un petit peu plus tôt pour que ce soit pas genre une découverte, parce que c'est quelque chose de...
Qui
peut jouer sur l'image qu'on a de ça, voilà, de qui on est. J'ai l'impression quand c'est une fille avec les gamètes des parents, c'est un peu différent. Je me trompe peut-être, mais, si, je me souviens d'ailleurs, j'avais lu une fois un article sur... c'était une fille née par FIV qui témoignait, qui c'était assez violent. Elle disait quand elle a appris que ses parents l'avaient eu par FIV, elle leur en avait beaucoup voulu parce qu'apparemment elle en voulait beaucoup à la vie. Et en gros, elle était là, vous n'auriez pas dû faire autant d'efforts pour m'avoir.
Ah waouh.
Mais bon, je pense que ça, ouais, c'est horrible.
C'est un cas un peu extrême, j'imagine.
Ah ouais, mais je pense que voilà, c'est un cas extrême et je pense pas que ce soit. Voilà, j'ai l'impression quand c'est une fille issue des parents, que c'est pas forcément quelque chose à aborder tout de suite. Enfin, je ne sais pas.
Pour finir, il y a une phrase que tu partageais de ton mari qui comparait la FIV à un marathon et pas un sprint. C'est rigolo parce que vous faisiez des courses quand ça ne marchait pas.
Oui, alors attention, nous ne sommes pas des grands sportifs, je précise.
D'accord, mais du coup, moi, je m'imaginais que vous étiez tous les dimanches en train de courir en famille.
Pas du tout.
Et c'est vrai, hein, il faut être solide au sein du couple, émotionnellement, physiquement. C'est vraiment un exercice d'endurance hein, sur la durée, malheureusement sur la durée. Et tous les deux. Enfin, moi, je voulais souligner cette phrase parce que je trouvais que c'était.
En préparant justement l'interview, je lui disais, mais parce que finalement, on a un parcours assez simple et tout s'est bien passé, donc je lui disais, qu'est-ce qui est intéressant de notre parcours à raconter, qui peut intéresser d'autres couples quand finalement ça se passe bien. Enfin, justement, je suis quand même contente de témoigner parce que c'est aussi bien de pouvoir voir, je pense, pour les gens qui sont en galère que parfois ça peut quand même bien se passer. Parce qu'on entend beaucoup d'histoires où c'est très très compliqué. Et c'est là où du coup il m'a sorti sa fameuse phrase. C'est pas un sprint, c'est de l'endurance. Et voilà, je pense qu'il voulait dire aussi, c'est ça, qu'au niveau du couple, il faut être solide parce que ça peut être long et ça peut être usant, surtout si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis même, je pense que soi-même, il faut que chacun soit aussi assez assez costaud, assez solide pour gérer les déceptions. Parce que c'est des moments, voilà, on a eu la chance de pas en avoir trop, mais bon, voilà, il y a des moments durs, comme je te le disais, moi, le moment où j'ai reçu mon carton de médicaments, le jour où on a l'appel qui est négatif, c'est quand même c'est quand même un choc, hein. Enfin, c'est.
Ah bah bien sûr, faut pas.
C'est pas des parcours simples, et puis voilà, gérer l'idée que peut-être on n'aura pas d'enfant, ça a été quelque chose de difficile.
Bien sûr. D'accord. Bon, écoute, je te dis un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire.
Ça m'a fait plaisir. Et puis c'est toujours, c'est assez rigolo de voir que même après tout ce temps, il y a des fois des choses quand je pensais pas, tu vois, qui me retouchent à nouveau d'en parler. Ça reste un petit peu quand même.
Bien sûr que ça reste. C'est l'histoire de ta famille finalement. Enfin, c'est comment t'es devenue maman et ça touche à quelque chose de très intime quand même. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Écoute, de pouvoir profiter de la vie, profiter des enfants, que tout se passe bien.
Cette fois-ci, la famille est au complet?
Ouais, la famille est au complet. Et c'est vrai que c'est aussi une chose où on s'était dit, qu'est-ce qui se passe si on fait un cycle de FIV et qu'on se retrouve avec d'autres embryons? C'est un peu la question. Parce que quelque part, la question se pose pas puisqu'on n'en a plus. On pourrait très bien repartir en cycle. On pourrait repartir en cycle de FIV si on avait envie, mais non, je pense que voilà. De toute façon, on n'en voulait que deux. Et puis, en plus de devoir passer par là, après, il faut jamais dire jamais. Hein, je le sais très bien quand j'en parle avec avec mes amis, mais voilà. Non, pour nous, là, en tout cas, aujourd'hui, la famille est au complet.
Bon, super. Écoute, je te dis encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente continuation, un bel été tous les quatre.
Merci.
Et puis, merci pour tout. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.